L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Passion intérieure. Scénario original de Julien Jean-Pierre. Mise en scène, production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Mais qu'est-ce qui se... arrivé à Perrache? Sans grand espoir, il prend une place pour Paris. C'est triste, humide, lugubre. Le train arrive. Les gens montent. Ils sont habillés comme en hiver, sans joie. Là, il n'y a pas de place pour s'asseoir, va rester debout. Le train se met en route. C'est lugubre. Pierre a peu d'argent. Peut-être même pas pour le retour. Il sent que son départ ne peut être que très court, à moins d'un miracle. Durant le trajet, il finit par rêvasser un peu et à vivre sa rencontre avec l'ami. Mais c'est assez flou. Le trajet est long, très long. Le paysage est triste. Réussit à trouver une place dans un compartiment. Un gros homme à lunettes est en face de lui. Enfin, le train arrive à la gare de Lyon en fin de matinée. Il est 12h30 ou 13h. Il pleut, c'est triste. Pierre quitte la gare. Il reste sur le devant de la gare, ne sachant quoi faire. L'homme qui était assis en face de lui va à lui et lui dit « Vous avez l'air un peu perdu. Vous voulez aller où ?» Au lycée Henri IV. C'est par ici. Mais c'est loin. Il faut prendre le car. Allez à l'arrêt et demandez au car. Merci, monsieur. Pierre va à l'arrêt du car. Il y a déjà beaucoup de monde. Demande à une dame. Pardon, madame, pour qu'il est au lycée Henri IV. Elle lui dit, attendez, il faut aller boulevard des écoles. Ou, je vais prendre le, ou, là, vous demanderez au chauffeur. Merci, madame. Le car arrive. Pierre entre dans le car. Il se met derrière. C'est une passerelle ouverte. Il y a du monde dans le car. Il demande à celui qui donne les billets. Le dit, descendez au Panthéon. Merci. Il regarde le paysage. Paris est gris, triste, comme son corps. C'est pas comme la première fois, l'enthousiasme n'y est plus. Et puis ce n'est pas le Paris du mois de mai, là c'est lugubre, il ne sait plus. Il descend au Panthéon. Il pleut. Pierre se sent idiot. Là, demande le lycée. On lui dit que c'est derrière le Panthéon. Il y va. C'est un grand mur sombre et triste, avec deux entrées, une pour les petits, l'autre pour les grands. Celle des grands est un peu à un angle, et plus grande que celle des petits, qui est derrière le Panthéon. La rue monte un peu et fait plus petite. Les élèves commencent à entrer, il y en a des deux sexes, semblent insouciants et rient ensemble. Pierre ne sait plus ce décor. Et Pierre sent que ça ne peut pas aller. Il voit que des personnes plus jeunes que lui. C'est lui qui voit comme ça. Il a honte, très honte de ce qu'il est. Il se trouve ridicule, laid, gauche, tout maigre, à l'air d'un pauvre. La honte lui coupe son élan. Il se demande sérieusement ce qu'il fait ici. Il ne se sent pas à sa place. Il n'a rien à voir avec les autres. Reste sur le trottoir d'en face. Il se dit qu'il va le voir arriver et qu'il pourra lui parler. Peut-être comprendra-t-il. À moins qu'il le prenne pour un fou. Pierre a la gorge serrée. Et puis, il ne sait pas pourquoi, mais il se sent vraiment coupable. Il attend comme ça. Plus il attend, plus se sent gauche et il pleut. Il se dit qu'il attend peut-être pour rien, qu'il est peut-être rentré. Alors il s'approche du petit lycée. Ça le gêne de parler à des petits. Il va voir un groupe de garçons, leur demande, excusez-moi, savez-vous si est rentré, si un garçon est rentré? Un des garçons demande à l'autre, tu le connais toi? L'autre garçon lui dit, oui, tu sais celui qui fait du cinéma, mais il est chez les grands, là-bas, merci. Si vous y allez, allez lui demander au lycée. Merci. Pierre va devant l'entrée du grand lycée. Il voit que ça donne à une cour intérieure fleurie avec une statue, des cascades, des arcades qui font le préau tout le tour de la cour. Enfin, comme il le voit. Ces arcades ont un toit. Il attend. Le temps passe, les élèves entrent. Il ne sait comment faire. Il a fait tout ça pour rien. Mais peut-être est-il au lycée? Peut-être pourra-t-il le voir s'il le demande. Le voir. C'est pas comme il se l'imaginait, et oui, la vie, c'est pas comme on s'imagine. Il décide, la gorge serrée, de rentrer dans le lycée. et de demander à peine entré, il tombe sur un homme maigre et sec. Madame, monsieur, c'est pour parler à un élève. Je lui dis, il faut aller au parloir. Voulez-vous me suivre? À peine entré, il tombe sur un homme maigre et sec. Madame, monsieur, c'est pour parler à un élève. Il faut aller au parloir. Veuillez me suivre. Pierre suit l'homme et sent que sa liberté est finie. Oui, finie. L'homme l'a fait entrer dans une grande pièce qui est un grand salon, un très beau salon, un vrai salon, avec des meubles 15, tapisseries rouges, sur les chaises et fauteuils, luce cristal, tapis à terre. Le salon est divisé en plusieurs petits coins où les gens peuvent parler tranquillement. Il n'y a pas de séparation. C'était dans une immense pièce. Pierre est ébloui. C'est la première fois qu'il entre dans un endroit si luxueux. Il ne savait pas que les écoles avaient des choses comme ça. Un petit homme, un costume gris, maigre, va à lui demander. Vous désirez, monsieur? Pierre lui dit, parlez à un élève. Bien, monsieur, veuillez-vous me suivre. Pierre gêné suit l'homme et s'assoit. L'homme se retire. Il a appelé à monsieur. Il a honte. Casse lui démontre qu'il fait plus vieux que son âge. Et puis il se sent laid au milieu de toutes ces belles choses. Il sent que tout est perdu. Dans le salon, il y a des parents qui parlent bas à des professeurs. Lui est seul, minable, moche, mouillé. Il va être obligé de s'expliquer. Après quoi? On va lui demander pourquoi il est venu et qui il est. Il ne sait plus. Il pourrait s'en aller sans rien dire, mais pour aller où? Et puis il est venu jusque-là, il ne sait pas. Mais quelque chose lui dit que peut-être il le verra. Un homme s'approche avec le sourire. Il a des papiers avec lui. Vous désirez, monsieur? Pierre lui dit, c'est pour voir un élève. L'homme se retire discrètement, tout à fait à l'aise. Ses pas sont étouffés par les tapis. Un homme arrive à lui, s'assoit près de lui. Vous désirez, monsieur, voir un élève? Lequel? Pierre a honte, il est tout rouge. On va savoir son secret. Il donne le nom. L'homme lui demande, vous êtes de la famille? Non. Et pourquoi voulez-vous le voir comme ça? L'homme se lève, je vais voir, et s'éloigne. Pierre sent qu'il est perdu. Il est entré dans la fosse. Au lion, au fossolon, discrète, au son étouffé, ne risque pas d'entendre les cris ni les rugissements. pauvre père. Il a l'air bien minable, sans défense. L'homme revient avec un gros homme, grand, fort, cheveux grisonnants, peut-être barbe, lunettes, costume gris. Il est très laid. Les deux hommes s'assoient en face de lui. L'homme laid lui demande : c'est vous qui avez demandé à voir ?
Oui.
Pourquoi ? Pierre ne sait plus quoi répondre. Il a l'air idiot. L'homme dit : je suis le père de. Pierre est surpris. C'est la première idée qui lui vient. Mon Dieu, qu'il est laid. On dit que les fils ressemblent à leur père. La beauté de son ami va se transformer en cette laideur. L'homme, sûr de lui, il sent qu'il est dans son droit, dit à Pierre. Vous allez foutre la paix à mon fils. Vous avez compris ? Puis il fait non de la tête. Pierre fait oui, le père lui demande. Vous venez d'où ?
Lyon.
Et vous êtes parti comme ça ? L'homme regarde Pierre, qui a l'air minable, et trouve l'homme dégueulasse, orgueilleux, laid. Et il le déteste. C'est un imbécile, sûr de lui. Comment ce moche peut-il avoir un fils aussi charmant ? L'homme le regarde bien et lui dit : n'est pas dans son assiette. Il faut venir faire venir la police. Pierre Penaud lui dit :
mais je n'ai rien fait.
L'homme se lève. Pierre reste avec cet homme orgueilleux, dédaigneux. Il dit :
je n'ai rien fait.
L'homme ne dit rien. L'autre vient et dit : ils vont venir. Pierre a un coup. Il se sent perdu. De toute façon, c'est perdu. Et puis, cette humiliation. Il demande : j'ai envie de pisser. Je veux pisser. L'homme se lève, pas le père, mais l'autre, et dit : venez avec moi. Le père reste assis. Et Pierre suit l'homme. Sortent du salon. Et le mène au WC. Dans les WC, il en profite pour prendre une surmontil. Il sait que tout est perdu et préfère la mort à ce qui risque de lui arriver. Puis, il s'en retourne. S'assoit en face du père. Tout d'un coup, les agents en uniforme arrivent. Ils sont peut-être quatre ou plus. Le père et l'homme se lèvent. Le père dit : je vous ai fait venir au sujet de cet individu. Il veut voir mon fils. Un agent demande : qui est-ce ? Le père dit : on ne sait pas, mais il n'a pas l'air normal.
Les agents s'approchent de Pierre et lui disent « Levez-vous et venez avec nous. » Pierre, triste, se lève. Leur dit « Je n'ai rien fait. » On ne lui dit rien. On lui met les menottes, la honte. Il dit « Mais je ne veux pas m'en aller. » Le policier dit au père « Venez avec nous pour la déclaration. » « Oui, merci. » Et Pierre est mené les menottes aux mains au commissariat. Il fait toujours lugubre. Cette fois, son séjour à Paris n'a duré que quelques heures. Mis dans une voiture de police, deux hommes sont mis entre lui. La voiture se met en route. Pierre ne pense à rien. Ce sort là, très là. Il aimerait mourir de suite si ces satanés découvriers pouvaient faire leur effet de suite. Un policier se retourne et dit « Le père a une de ces voitures de tourisme blanche. Elle doit coûter un de ses frics. » Pierre se dit « C'est avec l'argent qui défile de son fils. » Oui. Il déteste cet homme. Il ne comprend pas. Oui, il ne comprend pas qu'il ait fait un fils comme ça. Puis il ne comprend pas qu'il défende son fils, que c'est normal. Que c'est normal. Il ne comprend pas qu'aux yeux de cet homme, c'est un inconnu. Il ne sait même pas pourquoi elle a voulu voir son fils. Il ne se met pas à la place de cet homme. Et puis, pour lui, il a un côté tellement arrogant, sûr de lui, d'être dans ses droits. Lui, Pierre, ne l'est pas. Alors il semble que le père en profite. Il l'a trouvé plus faible que lui. Il aime écraser les faibles. Et puis Pierre est entré, lui le rien, le nul, dans le monde des nantis, de l'école des nantis. Comment est-il fait pour oser aller chez eux et demander un des leurs? Le père a été outré qu'il ait osé, lui le nul, le pauvre, aller jusqu'à lui, et les flics aussi. Ils n'ont même pas cherché à savoir. Il me manque une personne de la classe supérieure. Leur demande d'arrêter un pauvre type, ils n'hésitent pas. Même un jeune de 17 ans, même s'il fait un peu plus vieux. Ils viennent pour l'arrêter à 4 ou 5 et lui mettre des menottes. Le père, le proviseur, les flics ont tout de suite vu qu'il n'était pas de leur monde. Trop mal habillé, peu sûr de lui. C'est surtout ça qu'ils n'aiment pas en Pierre. Le côté pauvre, un pauvre qui a osé aller chez eux. Ces pierres avaient été de leur milieu, vêtements coupés, tailleurs, bon parleur, il aurait pu rencontrer son ami. Personne n'aurait rien dit. Là, il a été pris comme un malfaiteur. Il se dit qu'il ne l'a même pas aperçu. Son père ne va même pas lui parler de cette histoire. La voiture de police est arrêtée. Quartier lugubre. D'ailleurs, tout est lugubre cette fois. Ils entrent dans un commissariat lugubre et sale. Vont à la banque, un des flics dit. Je vous amène un jeune qui a été trouvé au lycée Henri IV. Le flic de la banque lui dit. Le lycée Henri IV, c'est pas chez nous. C'est de l'autre côté. Au commissariat rue. Et ils repartent. Pierre ne pense plus à rien. Il se laisse guider. Tout est perdu. Ça va être la galère. Et sa famille, sa mère, il aime mieux ne pas y penser. Et puis peut-être... Oui, peut-être... Sera-t-il mort avant? Tant mieux. La voiture s'est arrêtée. On entre dans un commissariat tout aussi lugubre que l'autre. Tout le monde va à la banque. Un flic dit, je vous amène un jeune qui est entré au lycée Henri IV. Le flic à la banque demande à Pierre. « Tu t'appelles comment ?» Pierre donne son nom. « T'as des papiers ?» Pierre lui tend son portefeuille avec les articles de journaux. L'homme regarde tout ça. « Tu es de Lyon ? Tu as fugué ?»« Oui. Pourquoi t'es allé au lycée Henri IV ?»« Comme ça ?» Pierre se sent mal. L'homme lui dit. « T'as pris des cachets ?»« Oui. » L'homme ne dit rien, ne cherche même pas à savoir ce qu'il a pris et s'il a besoin de service, d'un service d'un médecin. Un jeune de 17 ans qui a pris des cachets, on ne s'en occupe pas. Bien sûr, il a osé demander à voir un fils de riche. Le fils lui demande, tu es allé au lycée en 4, pourquoi? L'homme regarde les papiers. Pierre se dit que tout le monde... va connaître son secret. Oui, tout le monde va connaître son secret. L'homme regarde les papiers. Tout le monde va connaître son secret, même sa famille. Mourir. De toute façon, il est foutu. Le père dit, il est venu voir mon fils. Et pourquoi ? Je sais pas. Le fils soupire et dit, bien, le commissariat va vous recevoir. On fait asseoir Pierre sur un banc entre deux flics. Il a sommeil la langue pâteuse et cette odeur dégueulasse du médicament. Au bout d'un moment, on mène Pierre et tous vers le commissaire qui se trouve à l'étage. C'est lugubre. On fait asseoir Pierre sur un banc et on fait rentrer le père dans le bureau du commissaire. Dans le bureau du commissaire. Pierre entend le père dit « Mon fils a fait des films, dont celui-là, et il reçoit de nombreuses lettres à cause de ça. Des personnes s'imaginent qu'il est comme l'enfant du film. J'ai demandé à mon fils s'il connaissait cette personne, il m'a dit que non. Avant le tournage, et durant le tournage, mon fils a été surveillé par des psychologues. Et il n'a eu aucun trouble par ce rôle. Mais les gens s'imaginent des choses. Ils croient qu'il vit d'une façon autre. En réalité, il vit comme un enfant normal. Ce jeune homme n'est pas normal. Il a quelque chose. Enfin, lui a réussi à aller jusqu'ici. Les autres, non, pas encore. Et le commissaire le laisse partir. Pierre a honte, oui, a honte. Pas de sa fugue, mais que l'on sache son secret. Et puis, qui peut comprendre cet amour qui ne se dit pas? Qui peut comprendre la vie qu'il a menée? Qui peut comprendre qu'on l'a tué à 6 ans, le violent? Personne. Parce que personne ne se soucie de le comprendre. On le juge juste par ses gestes et non par ce qu'il est et a vécu. Lui n'a pas le droit de faire, de créer un peu de trouble, de fuguer pour aller voir un ami, mais les autres peuvent lui voler son enfance, lui violer son enfance, le reste de sa vie. Oui, parce qu'eux sont honnêtes. Lui, ne pense, on pense qu'il est, comme son père le pense, un fourbe et un pas franc. Et ce satané médicament qui n'agit pas. On le mène dans le bureau du commissaire. Pièce sombre, l'homme est petit, chauve, il dit. Tu as figué? Oui, bien. Qu'est-ce que tu cherchais à faire, ce garçon? Rien. Pierre est fatigué. Il a mal. Il a sommeil. Et puis cet homme qui sait des choses sur lui, que médecin lui dit. Je vois. Tu vas faire une déposition. Après, tu iras chez le juge qui décidera ce qu'on doit faire de toi. Assieds-toi. Un autre flic, sur notre table, a une machine à écrire. Étape. Pierre répond pas à ses questions, puis il est fatigué. Il Il ne dit pas pourquoi elle a fugué. Pourquoi il voulait voir ce jeune garçon? Il répond comme ça. Le commissaire n'insiste pas. Il s'en fout de toute façon. C'est l'affaire du juge. Il signe. Il fait signer Pierre. Puis, on le sort du bureau. On le remet au rez-de-chaussée et on le fait asseoir sur un banc. Là, assis, elle sommeille. Il s'allonge. Et le bain est très dur, il ne peut pas dormir. Pourtant, il cherche à dormir. Sa tête est vide. Il ne pense plus à ce qui lui est arrivé ou ce qui va lui arriver. Il ne pense à rien. Le lendemain matin, on lui mène son petit déjeuner qui tout bon malgré l'amertume, la mauvaise odeur qu'il a dans la bouche. Pierre vit comme dans un brouillard. Et comme elle a l'habitude malgré lui, il se fond dans le décor et le monde où il est. Il pourrait rester des années là-dedans et même qu'on l'oublie, que ça ne le gênerait pas du tout, bien au contraire. Durant toute la journée et même une partie de la soirée, il assiste au spectacle invisible parce que personne ne fait attention à lui. Il assiste à la vie du commissaire, du commissariat, le va-et-vient, les plaintes de toutes sortes. Il entend même ce que l'on dit dans le bureau d'un commissaire qui est au rez-de-chaussée, des putes, des clodos, même des gens qui demandent à être enfermés pour rester au chaud et manger. Un homme qui se plaint que son meilleur ami a voulu séduire sa femme. Et en plus de ça, c'était un aveugle. Je l'ai invité chez moi. Je lui ai fait tout ce que j'avais. Et voilà ce qu'il me fait. Le commissaire du rez-de-chaussée, un petit gros à lunettes, bon enfant. Il sort souvent de ce bureau, bientôt à la retraite, et dit qui sait qui a tué Madame Truc, mais il n'arrive pas à avoir de preuves. Il ressemble un peu à l'inspecteur Bourrel, mais il n'a pas encore dit, mais c'est bien sûr. Tout ceci rend humain la police. Oui. Même ceux qui l'ont mené là. Et ce père, comme il est laid. Et arrogant. Il doit être anéanti avec sa femme et son fils, et parler durant le repas d'une façon dédaigneuse de ce pauvre petit mal habillé et pas de leur monde. Tu te rends compte, il a osé venir jusqu'à nous. Enfin, c'est ce que pense Pierre. Sûrement que le père est moins insupportable ou antipathique que ça. Lui, Pierre, veut être oublié et veut tout oublier même son amour. Les heures passent comme ça, il fait nuit. Dans le commissariat, il fait tellement sombre qu'on n'y voit pas grand-chose. Pierre est encore dans les vapes à cause du médicament. Il se laisse aller. Puis dans la soirée, un agent vient le chercher. Viens. Et ils sortent du commissariat. Et une fois dehors, ils prennent une voiture. Paris la nuit. Pierre demande, nous allons voir le juge. La voiture s'est arrêtée devant un grand édifice ancien qui doit être le palais de justice. Ils y rentrent. Long couloir, des gens qui vont et viennent, des agents, des avocats. Un jeune homme de taille moyenne, chantin, casquette et d'habit de garde républicain à peu près. Son habit lui va à merveille, va vers eux. Sa veste est bien centrée, son pantalon bien pris et une rayure rouge sur les jambes de pantalon. Sa casquette est de belle forme. Le flic lui donne une pochette. Voilà, merci. Le policier se retire. Le jeune homme dit à Pierre, veuillez me suivre. Il ouvre une petite porte et... lui fait suivre un long couloir qui semble être comme un couloir de corve. Pierre suit le jeune homme. Malgré lui, il le trouve très beau et jeune. Son costume montre un corps parfait. Son visage est beau et doux. Pierre se sent très attiré par lui. Le gars lui demande, « Qu'avez-vous fait ?» Pierre lui dit, « Rien, j'ai voulu voir un ami. » Le garde ne dit rien. Pierre est très troublé par lui. Il aimerait toujours être près de lui. Le garde le guide tout le long de ce long couloir et où ils n'ont été que tous les deux. Et ouvre une autre porte. Et là, c'est la foule, des gens qui vont, viennent. Je garde le fait asseoir sur un banc. Il dit, ça va bientôt. Être à vous, vous pourrez passer chez le juge. Pierre n'est pas pressé. Il aimerait rester près de lui, toujours. Enfin, un autre garde lui fait signe de venir. Et on fait entrer Pierre chez le juge. Il est habillé en civil, petit, gros, lunettes, foutoir sur son bureau, sur sa table aussi. Le garde lui donne la pochette. L'homme la lit. Sans regarder Pierre, il lui demande « Vous avez... Tu es venu à Paris, pourquoi ?»«
Voir une personne. »«
Pourquoi ?»
Comme ça, le juge dit.
« Retourne chez tes parents. »
Et on fait sortir Pierre.
Le juge ne l'a même pas regardé une seule fois. Le gobeau garde a disparu. Un agent le mène vers la sortie du palais de justice.
Et dans une voiture.
Et la voiture roule dans Paris. Pierre est triste.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Passion intérieure, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.